Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode 79 avec Lucille Denis, orthopédagogue. Lucille a vécu à Montréal et travaille aujourd'hui dans une école internationale à Vancouver. Elle nous a parlé de sa formation d'orthopédagogue et c'est vraiment différent par rapport à la France. C'est un diplôme universitaire et cela dure 4 années. Elle nous a décrit son travail au quotidien avec les enfants en difficulté. Portrait de classe, fluence, métacognition, c'était nos sujets du jour. Je laisse place à ma conversation avec Lucille. Bonjour Lucille.
Bonjour Céline, ça va bien?
Oui, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour parler d'orthopédagogie et des difficultés en lecture et écriture. Est-ce que tu veux bien déjà commencer par te présenter?
Oui, donc mon nom est Lucille, je suis née en France. Quand je voulais être petite, je voulais être maîtresse d'école, mais je n'étais pas l'élève, tu vois, modèle, première de classe, comme on dit. J'étais l'élève 8 sur 20. Donc au collège, j'ai décidé de m'orienter vers le métier de scénographe, qui est décor, dans ma tête, c'était décor de cinéma que je voulais faire. Donc j'ai été jusqu'à faire un BTS en architecture intérieure à Angoulême. Et là, je me suis décidée de partir à l'étranger pour faire une école de théâtre en scénographie à Montréal. Donc en 2003, j'ai immigré à Montréal pour faire mon école. Et quand je suis sortie de mon école, je me suis rendu compte en fait que je n'aimais peut-être pas trop ça, que je n'avais pas toutes les aptitudes, la compétence, etc. et la confiance. Donc j'ai travaillé dans un centre de tutorat et là j'ai rencontré quelqu'un qui est orthopédagogue et j'ai vraiment aimé ce métier-là. Et en fait, ça travaillait vraiment avec les élèves en difficulté et j'aimais beaucoup ça. Donc en 2013 maintenant, j'ai retourné aux études, faire un diplôme universitaire pour devenir orthopédagogue. Et maintenant, je ne vis plus à Montréal, je vis à Vancouver, à l'autre bout du Canada, où je suis orthopédagogue dans une école française.
D'accord. Et à Montréal, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours pour devenir orthopédagogue? Parce que je pense qu'en France et à Montréal, il y a beaucoup de différences, je pense.
Oui, c'est ça. On a la chance au Québec que ce soit une formation universitaire qui existe grâce au gouvernement. En fait, c'est le gouvernement qui, dans les années 70, qui a décidé de mettre en place une structure pour aider les élèves en difficulté. Donc, bien sûr, le métier a évolué, mais ça prend une formation universitaire de 4 ans, minimum, pour être soit enseignante pour les élèves en classe, pour les élèves à particularité, ou sinon être orthopédagogue. Donc, voilà.
Ah d'accord, donc avec ce diplôme, après ces 4 années d'études, soit tu aurais pu travailler en classe avec les enfants en difficulté, soit être orthopédagogue, donc en dehors de l'école.
Alors, il existe des orthopédagogues en dehors de l'école. Moi, je travaille dans les écoles. Mais soit on a sa classe attitrée, ou comme moi, on appelle ça dénombrement flottant, c'est-à-dire que je vais dans différentes classes pour aider les enseignantes, soit en classe, ou sinon je sors des élèves de classe. Ça dépend selon les besoins, en fait.
D'accord. Donc, c'est un peu ce qu'on appellerait, je pense, maître E. Alors, le nom a changé, d'ailleurs. C'est plus maître E, c'est le nom qu'on utilisait l'année dernière, mais ça a changé. Maître à dominante pédagogique, un nom comme ça.
C'est ça. Vu que j'ai un aspect enseignant et aussi je peux faire des interventions de rééducation du langage écrit et en mathématiques aussi. D'accord. J'ai comme deux volets à mon métier, et conseiller les enseignants, les profs,
D'accord.
les parents,
Ah,
etc.
ouais, les parents aussi, d'accord.
Ouais.
D'accord. Maître, oh non, maître spécialisé à dominante pédagogique, ça doit être ça, la nouvelle appellation de maître. Faut que je vérifie, mais
Ah,
ça
ok.
ressemble à ça.
Ah, j'aime ça.
C'est très très long.
C'est plus court au Québec, c'est orthopédagogue.
Voilà. Alors, pendant ces 4 années, du coup, est-ce que tu peux nous parler des concepts, de tout ce que tu as appris, et toutes les choses qui t'aident aujourd'hui pour accompagner les enfants au niveau de la lecture et de l'écriture?
Donc, on a beaucoup en fait de cours de didactique. Le français, mettons les cours de français, on avait français oral, français écrit, la lecture aussi, c'était des cours, mettons, c'était 4 cours de français, mais à chaque fois, c'était de la didactique de français. Pareil pour les mathématiques. On voyait d'abord les notions de base mathématiques, on voyait la géométrie mathématique, mais comment l'enseigner, puis en particulier à des élèves en difficulté. Fait qu'on voyait à peu près les méthodes, quels pouvaient être les obstacles que les élèves pouvaient avoir. Donc ça, c'était plus les cours de didactique. On avait aussi des cours un peu plus psychologiques, des cours, mettons, pour des besoins spécifiques comme déficience intellectuelle, comme problème de comportement, des choses comme ça. Fait qu'on, puis on avait à chaque fois, chaque année, un stage, en fait, dans différents milieux pour qu'on puisse expérimenter. Effectivement, par exemple, mon premier stage, c'était avec des adultes qui étaient en retour aux études, mais qui avaient une maladie mentale. Après ça, j'ai eu des élèves qui étaient au primaire et qui étaient, eux, en grosse situation de retard académique, scolaire. Donc, à chaque fois, on change de milieu, en fait, pour qu'on puisse voir quelles sont les possibilités et qu'après nous, on puisse décider où est-ce qu'on veut continuer.
Hier, je discutais avec Ruth, qui est éducatrice Montessori et orthophoniste à la base, et elle me parlait de dysphasie. Et c'était vraiment passionnant parce que, alors, j'ai pas du tout le souvenir qu'on ait parlé de ça en formation initiale. Bon, ça remonte un peu maintenant, mais vraiment, c'était vraiment une découverte pour moi. Et je me dis, mais c'est super important que les enseignants aient ces connaissances-là. Parce que si on est. Un enfant qui a des troubles du langage, bon bah voilà, on sait qu'il a des troubles, mais on n'est même pas capable d'identifier dans quel domaine il y a un souci. Voilà, je pense que la formation pourrait être vraiment améliorée pour qu'après on puisse aider, accompagner les enfants au mieux.
Exactement, puis c'est aussi pour ça que les dépistages, les préventions, les portraits de classe, on peut appeler ça de différentes façons, mais c'est important en fait pour pouvoir donner des petits indices, un, aux enseignants, mais aussi pouvoir les communiquer aux professionnels. Ben, voici ce que j'ai observé, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Puis il y a comme un échange qui se fait. Puis ça, je pense que c'est là où c'est la richesse, parce que plus on est unis autour de l'enfant, avec les parents et l'enfant s'il est assez vieux, ben, ça peut être quand même gagnant.
Et à partir de quel moment pour toi tu parles de difficulté par rapport à la lecture et l'écriture? À quel moment tu juges qu'un enfant est en difficulté?
Alors, en fait, dès que. Ben moi, je vais pas. D'abord, c'est l'enseignant qui vient plus me
Ouais.
voir. Il y a 2 façons. Premièrement, je fais un dépistage, donc en coordination avec l'enseignante. Je fais un dépistage en septembre, en janvier, puis en juin. Donc, pour voir un peu quels sont les élèves qui peuvent avoir des difficultés selon les objectifs qu'on s'est fixés, selon le niveau. Si c'est un CP, CE1, CM2, ce sera pas les mêmes objectifs ou en tout cas regard. Mais il y a aussi l'enseignante qui, au cours de l'année, peut me dire, ah ben cet élève-là, il n'a toujours pas compris telle notion, est-ce que tu peux regarder? Ça peut être aussi une difficulté du genre, cette année, j'ai eu un enseignant qui est venu me voir, qui me dit, ah regarde, il n'arrive pas à prononcer ce mot-là, est-ce que j'ai essayé plusieurs techniques, est-ce que toi, tu as quelque chose? Puis c'était juste ponctuel. Donc ça peut être une difficulté ponctuelle, ça peut être aussi une difficulté qui peut être sur plusieurs mois mais qui se résorbe, ça peut être une difficulté persistante. Et si c'est une difficulté qui est persistante, qui est résistante aux interventions, on dit résistante aux interventions, c'est-à-dire malgré des interventions avec l'orthophoniste, avec l'orthopédagogue, fréquentes, ciblées, cet élève-là n'y arrive toujours pas, ben alors on va se dire peut-être qu'il y aurait une possibilité de trouble. Donc là, après ça, on peut orienter pour une évaluation, mais ça ne veut pas dire qu'on attend l'évaluation. Moi, en tout cas, je vais continuer à intervenir.
D'accord. Et est-ce que tu peux, là sur le petit document qu'on a partagé, tu parlais de la connaissance des lettres. Est-ce que tu avais envie de rebondir là-dessus, justement, sur la connaissance des lettres par rapport à l'apprentissage de la lecture?
Oui, alors en fait, c'est depuis quelques années au Québec, en tout cas dans mon école à Montréal, on mettait en place les interventions de dépistage. Donc, quand un élève arrivait en première année ou CP, on faisait passer aux élèves différents exercices, et notamment la connaissance des lettres. Et Pascal Lefebvre, qui est un orthophoniste, qui a mis ça en place, disait qu'il fallait connaître 17 lettres minuscules majuscules. Alors, au Québec, on ne travaillait pas encore les lettres attachées, donc c'était pas pris en compte. Mais après ça, moi, dans mon école, vu que je suis dans le système scolaire français, on a tenu compte. Et puis ça, c'est comme 17 lettres minuscules et 17 lettres majuscules, c'est comme un filet de protection disant, OK, il connaît au moins 17 lettres quand il arrive en CP, donc c'est un des facteurs qui va le protéger pour avoir un bon apprentissage de la lecture et d'écriture. Il y a d'autres facteurs, mais les connaissances des lettres en font
En
partie.
font partie. Et quand tu dis connaître les lettres, c'est reconnaître la lettre écrite. Il y a un B sur la feuille, reconnaître le B, c'est ça?
Exactement. Donc en fait, les lettres sont pêle-mêle devant l'enfant et il nous dit, alors on peut faire ça en forme de jeu, c'est un monstre qui mange des lettres, en tout cas on peut faire toute une petite histoire autour. Et puis, est-ce que la lettre, l'enfant est capable d'identifier le nom et le son?
D'accord.
Mais le
Mais.
nom est prioritaire, mais le son aussi c'est mieux parce qu'après ça, on va vérifier est-ce qu'il est capable de faire la fusion, segmentation, qui sont les principales opérations pour la lecture et l'écriture. À l'échelle de l'école, on va regarder fusion, segmentation, nombre de syllabes. Et en fait, on veut savoir est-ce que sa conscience syllabique est déjà bien installée. Et conscience phonémique, il va le retravailler de toute façon en CP, mais au moins la conscience syllabique, est-ce qu'elle est là? Fait que ça, on va regarder ça en particulier. On va regarder aussi, est-ce que, mettons, si on lui présente un livre, il est capable de le mettre dans le bon sens de lecture? Est-ce qu'il est capable de savoir où est le titre, où est l'auteur, le sens de lecture, donc? Aussi l'écriture, est-ce que son tenue de crayon est déjà bonne? Est-ce que son poignet n'est pas cassé? Est-ce qu'il fonctionne bien avec son épaule? Est-ce qu'il a une bonne posture? Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont l'aider en fait dans son apprentissage de la lecture et de l'écriture.
Bah, je rebondis par rapport à la connaissance des lettres. En France, dans le
Ouais.
système classique, dans les écoles traditionnelles, c'est dans les programmes de connaître le nom des lettres. Alors que dans la
Oui.
pédagogie Montessori, on se focalise que sur le son. Et une fois que l'enfant commence à écrire, à lire, on peut lui apprendre le nom des lettres. Comme ça, s'il retourne dans le système classique, après avoir fait ses 3 années en Montessori, il arrive quand même en CP, il connaît quand même le nom. Mais ça vient vraiment dans un deuxième temps. Pour pas l'embrouiller, en fait, on va déjà être que sur le son de la lettre.
OK, intéressant. Je sais, en fait, tu vois, même j'ai vu récemment une orthophoniste sur Instagram qui, elle, disait que c'était un prédicteur, c'était les lettres, de connaître le nom des majuscules, mais elle n'a pas parlé des minuscules. Alors, tu vois, je pense qu'on est encore dans ce travail de savoir un peu quelles sont les prédictions. C'est sûr que moi, je suis dans une école régulière, je ne suis pas, tu vois, alternative, Montessori ou Freinet, etc. Je suis aussi les enseignants. En fait, moi, j'évalue ce qui a été enseigné. Je ne peux pas évaluer quelque chose qui n'a pas été enseigné. Fait que si en maternelle, ils ont travaillé le son et le nom, ben, je vais regarder ça. Tu vois, comme les lettres attachées. Vu qu'ils font la méthode de la planète des alphas en maternelle, ben, je vais me baser sur ça pour moi, évaluer. Puis pareil, mes interventions. Si, mettons, tu vois, cette année, il y avait une élève qui n'arrivait pas à retenir che. Ben, j'ai utilisé le che de planète des alphas. Mais tu sais, j'essaie de voir aussi une espèce de continuité avec ce qui se fait en classe pour pas que l'enfant soit complètement perdu non plus. Mais si, mettons, le che n'aurait pas marché, ben, j'aurais utilisé une autre chose. Tu vois, j'essaie aussi
Oui.
d'être flexible.
Mais tu te cales quand même sur ce que les enseignants font et le rythme auquel ils avancent et tout ça.
Alors, le rythme, plus ou moins, parce que moi, vu que c'est des élèves en difficulté, je vais plus y aller avec le rythme de l'enfant. Je n'ai pas de
D'accord.
pression d'avoir un programme. C'est moi qui me fais mon programme, en fait. Par contre, je tiens à informer les enseignants. Là, on a utilisé, mettons, il y avait une petite fille, elle ne mettait pas le E caduc, le E à la fin des mots, comme dans lune. M, elle ne mettait pas le E. Donc, c'est sûr que j'explique derrière le pourquoi, comment, quand. Et là, on a une petite astuce, on a mis une petite fée qui met le E, tu vois, comme un pense-bête. Ben ça, je vais le communiquer et aux enseignants, enfin à la maîtresse et aux parents. Comme ça, en classe, elle va dire, ah, mais tu te rappelles la petite fée que tu as utilisée avec Lucille, blablabla. Donc, j'essaie aussi qu'il y ait un lien qui se fait. Si moi, j'utilise quelque chose de particulier, ben, j'essaie de le communiquer pour que le transfert se fasse.
Et tu parlais de conscience phonémique. Comment
Oui.
tu le... Donc ça, c'est vraiment hyper important pour que les enfants puissent rentrer dans la lecture, qu'ils entendent les sons qu'il y a dans les mots. Comment
Oui.
tu... Est-ce que tu as des manières spécifiques pour travailler ça?
Manière spécifique, non. En fait, j'utilise Internet qui est plein de ressources, surtout en conscience phonémique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Je n'ai pas de méthode secrète, de magie particulière. En fait, je regarde ce que l'enfant aussi a. Est-ce qu'il a déjà quelque chose? S'il a déjà des atouts, je vais les prendre. Je regarde aussi mes dépistages. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus que d'autres? Est-ce que c'est plus des longs mots? Est-ce que c'est plus des courts mots? Il y a tout ça en fait. Est-ce que le son initial est entendu? Parce que si je découpe un mot en syllabes, puis qu'après ça, on travaille la première syllabe, puis qu'il n'entend pas le premier son. Ça peut être difficile. Est-ce que sa fusion est correcte? Fait que là, on peut utiliser des perles, on peut utiliser une espèce de toboggan. En tout cas, il y a toutes sortes de choses. Il y a des choses qui fonctionnent avec un enfant qui ne peut pas fonctionner avec un autre enfant. On expérimente, c'est essai-erreur, comme on dit. On essaie quelque chose, ah là, ça marche. Okay, on sent qu'il y a une petite prise. Fait que là, on va continuer avec ça, puis on va le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Puis, ouais.
D'accord. Et tu parlais tout à l'heure de portrait de classe. C'est pas un terme qu'on utilise beaucoup en France. Qu'est-ce que tu
Ouais.
veux dire par portrait de classe?
Alors, un portrait de classe, c'est une photo des apprentissages du début d'année scolaire. Mettons que ça peut être aussi fait en janvier, mais on y va avec septembre, puisque la rentrée scolaire, en tout cas pour nous, arrive bientôt, puisqu'on est au mois d'août, là, quand on enregistre le podcast. Dans le fond, je vais prendre. Bon, il y a le CP, donc comme j'ai expliqué, mais mettons pour les classes de CE1, CE2, CM1, puis même CM, puis même collège. Je demande avec l'accord des enseignants si c'est correct, si c'est d'accord, si je peux faire un portrait de classe. Donc là, je leur demande en français, puis en maths. Puis en français, on fait la lecture et l'écriture. Donc en lecture, on fait la fluence. Donc, si je regarde le programme de l'éducation nationale, là, ils disent qu'à la fin de la sixième, il faut faire 120 mots minute. Moi, après, j'ai une grille aussi faite, élaborée par des scientifiques avec des différents critères. Donc, il y a une moyenne, puis après, il y a différentes comment dire, échelles de difficulté, etc. Fait que je me base sur ça. Donc, fluence, je regarde, parce que la fluence, si un élève n'est pas fluide, il a de fortes chances de ne pas comprendre ce qu'il lit parce qu'il met beaucoup d'énergie dans le décodage. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder la fluence. La fluence permet de savoir, OK, est-ce qu'il a des stratégies de décodage? Est-ce qu'il respire au bon endroit? Est-ce qu'il lit par groupe de mots? Est-ce que face à un nouveau mot, il est capable d'étirer le mot, etc. Est-ce qu'il met du ton, etc. Fait que ça, est-ce que ces stratégies sont mises en place? Donc moi, je fais pas lire le texte une première fois à l'élève, puis après il me lit devant moi. Je lui donne tout de suite le texte pour qu'il le lise, parce que je veux savoir est-ce qu'il est capable de mettre des stratégies en place quand c'est quelque chose d'inconnu devant lui. C'est ça que je veux savoir. Après ça, je regarde aussi dans la lecture les compréhensions de lecture. Les questions, on leur donne des questions. Alors là, la recherche est en train d'évoluer et de dire que la meilleure façon d'évaluer la compréhension de texte, c'est de faire un rappel de texte, c'est-à-dire demander à un élève de résumer le texte à l'oral. Ça permet de voir est-ce qu'il est capable de mettre en place le schéma narratif ou si c'est un texte informatif, de comparer, etc. Nous, on y va encore avec des questions, on est encore un peu traditionnel, mais moi, j'ai rajouté des questions métacognitives. Donc, comment as-tu fait pour trouver la définition de ce nouveau mot, etc. Parce que je veux voir, est-ce qu'il met en place des stratégies de compréhension de lecture? Est-ce qu'une phrase, il est capable de me dire c'est quoi les fonctions d'une phrase? Est-ce que face à un nouveau mot, il est capable de me dire quelle stratégie et comment il a fait pour trouver la définition? Est-ce qu'il est capable de me dire le sens d'un connecteur logique? Les causes-conséquences, c'est difficile. Puis les fameuses inférences, les déductions. Ça aussi, c'est hyper difficile pour des élèves. Les causes-conséquences, là, c'est très difficile. Tout ça, je vais regarder ça. Donc ça, c'est pour la lecture. Pour l'écriture, donc je vais regarder donc analyse de phrase, comme je le disais. Et je vais regarder en fait aussi, est-ce qu'ils sont capables, premièrement, de faire une bonne correspondance entre phonème, graphème. Est-ce qu'il y en a qui oublient des sons donc là, moi, ça me donne un indice. Surtout, c'est arrivé au collège, ils oublient encore des sons. Ben là, moi, ça me sonnait une petite cloche qu'il y a des choses qui ont pas été acquises. Est-ce que, au niveau des règles orthographiques, les régularités orthographiques, c'est mis en place? Est-ce qu'il sait, bon exemple, que les mots, la plupart du temps, les noms communs qui finissent en O s'écrivent EAU? Ça se peut que ça, ils ne sachent pas. Donc, surtout si c'est un milieu multiculturel où le français n'est pas forcément leur première langue d'usage, ben là, ça peut causer des problèmes. C'est pour ça que les régularités orthographiques vont être un bon support. Et donc, ça, c'est comme une dictée trouée que je donne, en fait. Donc, je dis le mot, je dis la phrase, je dis le mot. Et c'est basé sur ce qui a été enseigné avant. J'évalue toujours ce qui a été enseigné. Je ne donne pas des choses ou ce qui va être enseigné en tout cas. Donc ça permet à l'enseignant après de dire, ah ok, ben là les oui, les aïe, c'est toujours pas acquis pour 80% de ma classe, il va falloir que je re-enseigne ça, même si je suis en sixième, mettons. Donc les œil, le fameux accueil qui devient un mot irrégulier aussi, donc tous les mots irréguliers aussi, c'est mon dada, j'adore ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de pièges pour les élèves là-dedans. Donc c'est ça que je vais regarder en écriture aussi. Et puis, est-ce qu'ils sont capables de construire un petit texte avec des phrases, leurs idées, est-ce que c'est construit leurs idées, est-ce que c'est juste une suite de phrases avec des et. Donc ça m'indique beaucoup de choses aussi par rapport à sa connaissance de la grammaire. Donc voilà. Ça, c'est mon portrait de classe. Après ça, je fais un beau tableau. Et puis avec l'enseignant, l'enseignante, on s'assoit et puis on identifie les élèves qui sont à risque, en difficulté, comment on peut intervenir. Et voilà.
D'accord, très intéressant. Et je crois que tu voulais nous parler de Steve Bissonnette. Alors, qui est-il?
Alors, Steve Bissonnette, c'est celui qui parle beaucoup de l'enseignement efficace. Dans le fond, une fois qu'on a fait un portrait de classe, qu'est-ce qu'on met en place dans la classe? Donc, on peut mettre l'enseignement efficace, c'est-à-dire l'enseignement efficace comprend deux choses, comprend quelque chose, une modalité sur les comportements et sur l'enseignement efficace, donc qui est basé sur l'enseignement explicite. Donc, mettons, mes élèves n'ont toujours pas compris le son aïe ou œil. Donc là, moi, je vais enseigner, mettons, dans 15 minutes, une leçon et je vais expliquer comment mon cerveau fonctionne. Je vais faire appel à la métacognition, les fameuses fonctions exécutives dont on parle, donc activer le cerveau, planifier la mémoire, etc. Et puis après ça, ils vont travailler, je vais leur donner des exercices pour travailler en binôme. C'est sûr qu'en cas de Covid, ça a été un petit peu plus difficile de travailler en binôme. Puis après ça, en autonomie. Et puis au fur et à mesure des exercices qu'ils font, je vais voir aussi, moi, je vais un peu évaluer, entre guillemets, pour voir, leur donner des rétroactions, où est-ce qu'ils sont rendus. Puis je vais pouvoir identifier les élèves qui ont accroche encore. S'il y a encore on appelle ça une résistance à l'intervention. Si malgré tout, ce n'est pas encore assez acquis, ben là, je peux les prendre en sous-groupe, leur retravailler, etc. Donc ça permet d'aller chercher une bonne partie de sa classe en travaillant comme ça pour que, quand mes méthodes sont efficaces, eh bien, je peux réduire le nombre de difficultés. Ce n'est pas magique, là. Bien sûr, il y a toujours des élèves qui résistent, comme on dit. Donc là, il faut peut-être faire appel à un professionnel. Est-ce que d'ailleurs, cet élève-là n'a pas un trouble, etc. Donc, c'est comme quelque chose de progressif sur lequel on va se bâtir pour aider les élèves à apprendre et à mémoriser et puis à développer des techniques et surtout des stratégies et la motivation.
D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais d'inférence.
Oui.
Comment tu aides les enfants qui sont perdus face aux inférences?
Alors, les inférences, c'est le top de la compréhension en lecture. Okay? Avant d'aller chercher, on peut travailler les inférences à l'oral dès le plus jeune âge, au contraire, ça va être super. Puis il y a plein de livres là-dessus. Il y a même une collection, alors bien sûr, je n'ai plus en tête, qui s'appelle. Oh mon Dieu. Et bref, c'est que des livres, albums jeunesse spécialisés dans les inférences.
Tu me renverras le lien, comme ça je le rajouterai dans les notes de l'épisode.
Oui, oh, je suis désolée, je ne l'ai pas. Si vous cherchez Millie Rose, Lily Chartrand, c'est la même collection, en tout cas. Et toujours est-il que les inférences, c'est le top de la compréhension. Donc, on appelle ça des habiletés de haut niveau. Le décodage, c'est des bas niveaux. Puis, tout ce qui est compréhension, c'est des habiletés de haut niveau. Pour comprendre un texte, il faut déjà savoir qu'il faut comprendre 98% des mots du vocabulaire. Donc, déjà, il faut savoir comment faire face à un nouveau mot. Quelles sont les stratégies, parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Ce n'est pas juste chercher dans le dictionnaire, parce que des fois, même le dictionnaire est une difficulté en soi pour un élève. On parlait tantôt de gestes moteurs. Si un élève a des difficultés à tourner les pages, à chercher l'alphabet, etc., lire une définition, bref, ça devient une problématique. Donc, d'aller chercher d'autres sources, notamment la morphologie, fait partie des stratégies à beaucoup, beaucoup utiliser, et pas juste de le voir dans une leçon telle semaine, mais de le diffuser au fur et à mesure de l'année scolaire. Donc, 98% des mots, ça, c'est la compréhension texte. Après ça, il faut avoir une bonne compréhension de la phrase, comment s'articule une phrase. Déjà de base, simple, puis après ça, complexe. Après ça, on va chercher les liens entre les phrases. On va voir est-ce qu'il met un sens sur les connecteurs. Après ça, est-ce qu'entre paragraphes, les articulations entre paragraphes, est-ce qu'il est capable d'avoir différents points de vue, est-ce qu'il est capable de résumer. Puis là, après, on a les inférences. Puis là, il y a deux modèles d'inférences qui disent qu'il y a plusieurs types d'inférences. Il y a les inférences, moi je me base sur un modèle en particulier, mais il y a des inférences optionnelles, et des inférences obligatoires, dont le vocabulaire en fait partie. Et il y a les inférences semi-optionnelles, semi-obligatoires à la compréhension. Donc ça, c'est tout ça, c'est fait partie, et ça va permettre d'orienter nos interventions et nos objectifs de travail. Quand on sait qu'il y a différentes catégories d'inférences, ben là déjà, on va pouvoir dire, ok, ben si c'est une inférence de cause à effet, c'est quand même assez important, donc je vais pouvoir travailler là-dessus, etc. Donc voilà.
D'accord.
Les anaphores aussi, j'ai oublié de dire les anaphores, les reprises anaphoriques, les reprises de pronoms ou de groupes du nom. Ça aussi, ça peut être problématique pour des élèves.
Ça me rappelle un document que j'utilisais, je crois que c'était, je mémo... Oh, pareil, j'ai oublié le nom. Non, c'est pas, je pense à un autre, non, c'est pas ça. C'était des documents produits par le ministère pour le CE1, le CE2, le CM1, CM2. Et justement, il y avait les travaux sur les connecteurs, les inférences, les pronoms. Si j'arrive à retrouver le nom, je le rajouterai moi aussi dans les notes de l'épisode. Mais c'était un document vraiment plein de petits exercices. Et vraiment pertinent, que j'ai beaucoup utilisé il y a quelques années.
C'est ça, mais pas trop vite tout de suite.
Ouais.
Aller sur des inférences, vraiment être sûr d'abord de construire d'autres bases. Parce que les inférences, ça fait appel aussi aux connaissances générales. Fait que si l'enfant n'a pas de connaissances générales, mais est capable d'aller chercher des indices du texte, son inférence, ça ne sera pas faite. Moi, j'avais un enfant qui ne savait pas, parce qu'au Québec, les parcs ferment à 23h. Et il devait faire une inférence par rapport à ça, mais il ne savait pas que les parcs fermaient à 23h.
Oui.
Fait que t'es pas capable de faire l'inférence. Il était comme, je sais pas ma réponse. Donc il y a ça aussi, la culture générale en fait beaucoup partie.
Oui, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que tu fais une différence entre un trouble et une difficulté d'apprentissage?
Donc, une difficulté, c'est pas persistant. Un trouble, c'est persistant. On parle de 2 ans de retard, on parle d'un cycle, ça dépend comment on se positionne. Et il faut des interventions, et c'est suite aux interventions, si malgré tout l'enfant résiste à ces interventions-là, c'est-à-dire que malgré tout, nos interventions étaient ciblées, fréquentes, intensives, et que ça, la difficulté persiste et n'arrive pas à rejoindre la courbe qui pourrait convenir aux apprentissages liés à son âge, ben là on pourrait parler de trouble. Alors il faut faire appel à un spécialiste, enseignant, on n'est pas dans l'habileté de dire « ah, il y a un trouble ». On peut dire, il y a quelque chose qui me chicote, il y a quelque chose qui ne marche pas, peut-être que je peux aller demander l'avis d'un professionnel, etc. Néanmoins, moi, dans mon école, je ne vais pas attendre le diagnostic pour intervenir. Je vois qu'il y a une difficulté sur telle chose, et je vais aider cet élève-là. Je ne vais pas être dans l'attente de pour rien faire, etc. Mais je vais d'abord cibler sa difficulté, ça c'est sûr, pour travailler là-dessus. Donc c'est ça, fait un trouble... c'est cognitif. La dyslexie, on ne dit plus maintenant dyslexie, dysorthographie, d'ailleurs on dit trouble développemental du langage écrit, parce que développemental, ça veut dire qu'on est comme ça et que ça persiste et que ça reste dans le temps. Ça ne disparaît pas, ce n'est pas quelque chose de magique qui s'enlève. Et pareil pour dysphasie, on dit maintenant trouble développemental du langage oral, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a comme des termes qui sont en train d'évoluer.
Le deuxième mot que tu as dit, c'est développemental ? Trouble
développemental.
D'accord.
Pour faire l'opposition à ceux, qui ont une aphasie, qui, eux, ont un problème de langage qui est arrivé suite à un accident. C'est pas dev mental, développemental.
D'accord.
C'est arrivé soudainement alors qu'avant, ils n'avaient pas ce trouble-là. Donc, c'est pour marquer un peu plus ça, en fait.
D'accord.
Que c'est cognitif.
D'accord. Et qu'est-ce que tu appelles TDLE ?
C'est ça, c'est trouble mental du langage.
D'accord.
C'est développement mental. Moi aussi, j'ai de la misère, j'ai de la difficulté à articuler.
D'accord, c'est l'abréviation, ok.
Ouais.
Et ben écoute, merci beaucoup, Lucille. Est-ce que tu, avant que je te pose les trois questions habituelles, tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à notre sujet ?
Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez... regardez ma page Instagram, si vous voulez, je donne pas mal de capsules sur comment aider des élèves en difficulté, même s'il y en a qui ont des questions. Je suis ouverte, il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer
d'accord.
avec moi.
Et sur Instagram, aussi, les auditeurs peuvent te trouver en tapant quoi ?
Oui, Lucille Orthopédagogie.
Lucille Orthopédagogie, d'accord.
Ouais. Donc, vous pouvez communiquer avec moi, il n'y a pas de problème. Je suis toujours dans le respect des autres métiers. Je travaille beaucoup de concerts avec des... En tout cas, en partenariat avec des orthophonistes, psychologues, etc. J'aime beaucoup ça. C'est sûr que moi, je développe mon métier comme je l'ai appris à l'université. Donc, ma vision est selon des théories qu'on nous a apprises. J'aime ça aussi partager et échanger. Je trouve que c'est très riche.
C'est le but du podcast.
Exact.
Et oui, tu peux peut-être dire aussi que toi aussi, tu as créé ton podcast.
Oui, pour faire connaître les différentes facettes de l'orthopédagogie au Québec, puis en fait au Canada, parce qu'il y a aussi des orthopédagogues comme moi qui ont immigré dans d'autres provinces du Canada. Donc, ça s'appelle Micro ouvert sur l'orthopédagogie. À peu près chaque mois, on invite un ou une orthopédagogue qui présente son métier. Donc, on a déjà eu quelqu'un qui était au lycée, l'équivalent du lycée au Québec. Quelqu'un qui va travailler avec des Premières Nations. Quelqu'un qui est dans un milieu un peu plus hospitalier. Donc, on a plein de milieux comme ça, différents, avec la douance, notamment aussi, orthopédagogue avec la douance. En tout cas, on a plein de milieux et c'est vraiment fascinant de voir comment une formation universitaire peut après nous faire aller vers d'autres voies et nous faire développer aussi de façon professionnelle. Je trouve ça super intéressant, vraiment.
Cette diversité.
Ouais, exactement.
D'accord. Est-ce que tu voudrais partager une citation en rapport avec notre sujet ?
Alors, c'est une citation que quelqu'un de notre invité avait dit lors du podcast. Puis c'est une citation, je vais la dire, puis après je vais expliquer. Il n'y a pas d'ascenseur pour la réussite, il faut prendre l'escalier. Et je trouve qu'en fait, cette citation-là, c'est d'y aller avec, comme je disais tout à l'heure, on y va avec, selon moi en tout cas, j'y vais avec le rythme de l'enfant. Je n'ai pas cette pression de programme, même si je ne l'enlève pas complètement, parce que je travaille avec le programme, avec les parents et les enseignants. Mais reste qu'il faut quand même que je respecte un peu le rythme de l'enfant. Et je sais qu'au bout du compte, il va y avoir une réussite. Peut-être pas au bout d'un mois, peut-être pas à la fin de l'année scolaire, mais il y a des progrès. C'est la semaine passée, j'ai fait un live Facebook avec Sandra. Sandra est éditrice de livres de lecture confortable, ZLT. Et elle est multidys. Et le français, pour elle, c'était une de ses difficultés. Et puis maintenant, c'est plus rendu un obstacle. C'est une de ses forces, puisqu'elle est éditrice de livres. Donc, c'est là où... C'est la réussite, c'est à long terme. Il faut penser à long terme. C'est une bouchée à la fois, c'est un petit succès à la fois. On va célébrer comme si c'était la médaille d'or des Jeux Olympiques. Mais c'est ça aussi l'objectif. Et c'est ce qui ressort, en fait, quand je fais l'entrevue de différents orthopédagogues. C'est ça qui ressort. C'est on y va une bouchée à la fois. Puis si elle est petite, on la prend quand même parce que c'est un succès et c'est bon. Et on célèbre l'erreur, en fait. Et aussi, l'erreur est source d'apprentissage. Et moi, je remercie même mes élèves quand ils font une erreur. Je suis comme, ah, merci d'avoir fait cette erreur-là. Regarde, ça nous apprend ceci. Et puis, hop, on avance comme ça. Donc, voilà.
D'accord. Et est-ce qu'il y aurait un livre que tu as beaucoup aimé récemment et que tu aimerais partager ?
Alors, je lis beaucoup de livres de référence. Je lis beaucoup aussi de recherches scientifiques. En ce moment, je suis pas mal sur la dysgraphie. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, un des livres, c'est surplus sur les apprentissages de lecture et écriture, puisque c'était le thème, s'appelle « Lecteur et scripteur en difficulté », donc « Propositions didactiques et orthodidactiques ». Et c'est aux éditions Presse de l'Université du Québec. Et donc, ça nous montre un peu comment aider les élèves en difficulté. Quand tout à l'heure, je parlais des régularités orthographiques, quand je parlais de correspondance, phonème, graphème, le vocabulaire, la morphologie, tout ça explique la théorie, puis derrière, comment intervenir aussi. Donc, c'est un livre vraiment intéressant. Ça donne aussi une mise à jour, puisqu'il est assez récent, il est de 2020, le livre. Donc, et j'ai mis beaucoup de post-it, puis moi, ça m'a permis aussi de rafraîchir un peu mes cours de deuxième cycle universitaire. Donc, c'est très intéressant. Alors, je pense qu'il peut être livré en France, mais j'en suis pas sûre. Faudrait essayer. En tout cas, moi, je l'ai fait livrer à travers le Canada parce que j'habitais plus au Québec quand je l'ai acheté. Mais peut-être qu'ils font la livraison à l'étranger. Et sinon, je m'excuse d'avance. Si vous pouvez pas l'avoir, je m'excuse.
Et on va terminer par un coup de cœur ou un coup de gueule.
Je vais y aller avec les coups de cœur. Les coups de cœur, c'est tous les remerciements qu'on a. T'sais, oui, on a un salaire monétaire, mais on a aussi un salaire de remerciements, de yeux qui brillent, des enfants, de joie de venir dans notre bureau. Moi, je fais des diplômes. Je fais des diplômes à la fin de chaque fin d'objectif. Je mets un diplôme, puis là, je fais une photo, puis je l'envoie aux parents. Puis les parents sont super contents de voir aussi qu'est-ce qui se passe dans ma salle, qu'est-ce que je travaille avec, ce que je travaille avec l'enfant, etc. Donc, tous ces remerciements-là, cette gratitude qu'ils nous donnent quand on est important. Cette année, j'avais des élèves qui avaient beaucoup de difficultés en maths. Et là, maintenant, ils se projettent de faire des carrières scientifiques. Ben, rien que ça, déjà, waouh, c'est une belle... Un beau baume sur le cœur. Donc, un beau baume. Je travaille les sonorités sur le cœur. Donc, ça, je dirais que c'est ça, les coups de cœur. Les coups de cœur, c'est toute la gratitude qu'on reçoit de la part des parents, des enfants, des enseignants. Vraiment.
Eh bien, merci beaucoup, Lucille.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée, bonne soirée, tout dépendamment où est-ce que vous êtes rendu dans votre journée.
Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !